des appareillages de Branly, ce qu'on appelle les cohéreurs, qui permettent de capter les ondes électromagnétiques. Et de ce point de vue-là, les appareils de Lodge sont considérés par les historiens des techniques comme véritablement efficaces et comme étant la base même de la TSF. Marconi n'aurait, entre guillemets, que rassemblé finalement ces différents matériaux et aurait eu le génie des affaires en ayant trouvé les financements et les techniciens nécessaires pour faire marcher tout ce dispositif. Alors, à mon avis, la querelle est un peu vaine. Entre Marconi, l'entrepreneur, et Lodge, le savant, ce sont les efforts conjugués de tous ces individus qui ont contribué à la TSF. Donc, au tout début du XXe siècle, la TSF devient un dispositif opérationnel, utilisé en particulier pour la communication maritime, mais aussi pour toutes les zones qui sont dépourvues d'installations de télégraphie filaire, ou y compris pour les militaires lorsqu'ils sont en campagne et qu'ils veulent communiquer rapidement. Les Anglais seront les premiers, par exemple, à utiliser la TSF pendant la guerre des Boers en 1900. Les Français l'utiliseront aussi pendant l'expédition au Maroc en 1911, et ainsi de suite. Mais que ce soit le téléphone, que ce soit la TSF, etc., la radio, c'est-à-dire la possibilité de transmettre la voix, la musique, n'existe toujours pas. Parce que la difficulté qu'il y a, c'est qu'il faut être capable d'utiliser ce qu'on appelle une onde porteuse, qui va transmettre les ondes électromagnétiques, et au sein de cette onde porteuse, en simplifiant, être capable ensuite de décoder des ondes modulées qui vont transcrire la voix humaine, la musique. Alors je parlais au début de Fessenden, c'est l'un des premiers qui va réussir à mettre en place cela, mais ce sont les débuts de l'électronique en fait qui vont vraiment permettre à la radio, avec d'une part l'invention de la diode par Fleming, et puis surtout de ce qu'on appelait la triode, que l'on appelle aussi les tubes à vide, que vous voyez sur les vieilles illustrations, sur les vieux postes de radio sous forme d'ampoules qui sont posées sur le poste. Ces triodes mises au point par un Américain qui s'appelle Lee D. Forest sont en fait un appareillage qui permettent justement d'amplifier les signaux basse fréquence qui permettent, une fois modulés, de transcrire, de transmettre la voix et la musique. Et ce sont dans les années 1900-1910 que ces premiers appareils vont être mis en place. Et la triode de Lee D. Forest, elle vous dit rien parce que évidemment plus personne l'utilise aujourd'hui. Elle a été remplacée par les transistors puis les circuits imprimés depuis. Mais en fait, on est véritablement ici avec la triode au tout début de l'électronique. Et cette branche-là d'activité, de recherche scientifique et technique, qui permet donc la radiodiffusion, permettra ensuite les débuts de l'informatique. Donc vous voyez que quand on fait la genèse technique de cette radio, on se rend compte que elle est très lié à la téléphonie. Il y a une émission célèbre sur France Inter qui s'appelle « Le téléphone sonne ». C'est un peu un retour aux sources. Et la téléphonie mobile, la technologie, la téléphonie mobile doit autant à la radio qu'au téléphone. Mais également, quand on parlera de radio numérique, ben vous voyez qu'en fait, les débuts de l'électronique ont véritablement commencé avec la radio aussi. C'est vraiment la radio qui a conduit au début de l'électronique, qui conduira ensuite au développement de l'informatique. Donc voilà, si on peut dire, la genèse technologique de la radio. Si on vous pose la question, ben, qui a inventé la radio, vous pourrez répondre beaucoup de monde. Il y a bien sûr des inventeurs qui ont joué un rôle crucial. Il y a des disputes pour savoir le rôle entre les scientifiques, les techniciens, les entrepreneurs. Mais en fait, c'est la contribution de cet ensemble d'individus qui a permis la radiodiffusion. Voilà pour cette première partie sur la genèse technologique. Je ne sais pas si vous avez des questions, des interrogations, si j'étais assez clair, ou si vous avez, si vous souhaitez des précisions. Alors, bien évidemment, pour ceux qui étudient en physique les problématiques d'électromagnétisme, je simplifie à outrance hein, les notions techniques qui sont liées à la radiodiffusion. Je me garderai bien d'aller plus loin d'ailleurs, parce que je dirais des bêtises sur un plan physique. Pas de questions ? Non ? Alors je vous propose de parler du deuxième thème, c'est cette fois-ci comment s'est structurée l'industrie radiophonique. Alors d'un point de vue chronologique, on peut faire simple. Disons que la Première Guerre mondiale a créé un coup d'arrêt au développement d'une industrie de radiodiffusion. Il faut attendre le début des années 1920 pour que aux États-Unis d'abord, en Europe ensuite, commencent à se structurer les premières stations émettrices de radiodiffusion. En France, c'est le développement de la radiodiffusion qui va sauver la Tour Eiffel, puisque je vous rappelle que la Tour Eiffel, construite à l'occasion d'exposition universelle, devait être détruite. Mais on s'est rendu compte d'abord qu'elle était une formidable antenne de TSF, grâce à la hauteur qu'elle proposait. C'est le général Ferrier, un militaire, qui va défendre le projet d'antenne TSF de la Tour Eiffel, et qui ensuite va devenir la première station émettrice radiodiffusion en France. Et puis, le boom de l'industrie radiophonique, c'est vraiment les années 1930, en Europe et aux États-Unis, où elle va assez rapidement structurer le paysage social des Européens, des Américains, les scènes où l'on voit la famille qui se réunit le soir autour du poste de TSF, qu'on continue dans le langage courant à parler de TSF, devient une scène de plus en plus quotidienne, de plus en plus banale au sein des populations. Un peu comme le sera la télévision plus tard, à partir des années 1950 aux États-Unis, 1960 pour l'Europe. Donc la radio, l'industrie radiophonique explose véritablement dans les années 1930. Et ce qui est intéressant à analyser, c'est de voir d'abord le type de production. En fait, les émissions auxquelles vous êtes habitués aujourd'hui par la télévision ont été la plupart du temps expérimentées d'abord à la radio. Et elles ont été inventées très tôt, très vite. Un exemple parmi d'autres, c'est ce qu'on appelle les radios-crochets. Alors les radios-crochets, ce n'est ni plus ni moins que l'ancêtre de la Star Academy. On invite des jeunes artistes, jeunes chanteurs, jeunes comédiens à venir faire leur numéro à la radio. Et c'est un formidable moyen pour acquérir une notoriété. Dans 90% des cas, la notoriété n'est que passagère. Mais pour quelques-uns, quelques artistes, ils vont émerger. Alors, la plupart des artistes des années 1934-1935 vous sont sans doute peu familiers, sauf peut-être un, Bourvil, qui se fera connaître en 1937 grâce à un radio-crochet, par exemple. On a des émissions musicales. On a évidemment, parmi les missions phares que l'on trouve à la radio, qui a un succès monumental auprès des auditeurs, c'est la météo, tout simplement. Mais également le journal de radio diffusé, qui va d'ailleurs faire une concurrence aux journaux, qui vont s'inquiéter du pouvoir de la radio. Il n'y a pas que les journaux d'ailleurs qui s'inquiètent à l'époque, il y a aussi les bars et les débiteurs de boissons, parce que les gens, au lieu de s'attabler au bar et de discuter avec leurs copains, préfèrent rentrer chez eux pour écouter la radio. On a même, par exemple, à Lille, dans les années 1930, une campagne menée par les débits de boissons pour interdire le poste de radio locale qui fait une concurrence déloyale au café du coin. On a également des émissions qui s'organisent, et notamment des fictions, des feuilletons radiophoniques. L'un des tout premiers, c'est dans les années 1920, sur Radio Paris, où les auditeurs, un soir, sont saisis d'entendre un récit particulièrement dramatique d'un naufrage, à se demander si ça se passe pas en direct. Il y a des gens qui appelleront d'ailleurs à la station, qui écriront pour demander ce qui se passe. En fait, c'était une mise en scène feuilletonesque, ils appelaient ça à l'époque du théâtre radiophonique. Dans les exemples de feuilletons à succès, ancêtres de nos blockbusters au cinéma ou de nos succès télévisuels aujourd'hui, on cite très souvent l'épisode, ou plus exactement la mise en scène radiophonique du roman d'A.G. Wells, La guerre des mondes, par Orson Welles en 1938. Alors, je vous ai apporté la première émission. Si on peut écouter soit un extrait, soit quel est le tout début.
Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, They were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water.
Alors, ce que vous entendez là, c'est l'originalité de l'émission, et c'est pour ça qu'elle est restée célèbre. C'est qu'Orson Welles a fait le choix, pour dramatiser la présentation, d'en faire un espèce de show réaliste, comme si c'était un reportage journalistique. Procédé qu'on retrouve aujourd'hui au cinéma, par exemple, dans ces films, notamment ces films fantastiques ou ces films d'horreur, où on singe la réalité ou une prise de vue réelle d'un phénomène. Orson Welles invente cela et tout au long de l'émission, il crée des faux reportages journalistiques. À un moment donné, on passe la météo, puis on interrompt brusquement la météo en expliquant que les Martiens sont en train d'attaquer telle ville, et ainsi de suite. Alors, on a souvent dit que cette émission d'Orson Welles, notamment le premier passage, avait créé des mouvements de panique, en particulier à New York, où les gens, lorsqu'ils avaient pris en cours l'émission, avaient eu le sentiment que, ben, effectivement, les Martiens attaquaient véritablement et ils avaient créé une panique. En fait, on a exagéré. Enfin, CBS, la chaîne qui diffusait l'émission d'Orson Welles, a amplifié le fait que quelques personnes, effectivement, ont paniqué ou ont pris pour argent comptant l'émission d'Orson Welles, mais ça n'avait certainement pas le côté massif et panique tel qu'on a pu ensuite le raconter. Mais pour CBS, c'était un formidable coup de pub, évidemment. Et ils avaient créé le buzz avant l'heure en amplifiant et en expliquant que des gens s'étaient suicidés, avaient été passés à travers les vitrines des magasins pour s'enfuir, étant persuadés que les Martiens attaquaient. Donc, on se rend compte que ce soit en Europe ou aux États-Unis, l'inventivité radiophonique est déjà très très large et elle s'est diversifiée et de façon très rapide avec... notamment en Europe, très tôt, une opposition entre une approche sérieuse de la radio, essentiellement centrée sur la diffusion d'informations, sur la retransmission de discours, sur l'enseignement, la possibilité d'avoir des cours radiophoniques, et puis un côté beaucoup plus ludique, beaucoup plus populaire, que ce soit à travers la musique, la chanson, ou des émissions s'adressant davantage aux préoccupations quotidiennes. Du coup, une deuxième caractéristique de cette radio, dans les années 1920-1930, c'est la façon dont on allait s'organiser. Aujourd'hui, avec les communications modernes, que ce soit la télévision ou Internet, vous entendez souvent parler des débats sur la liberté, sur qui contrôle quoi, que ce soit le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir des médias, appelé le quatrième pouvoir depuis Edmund Burke à la fin du 19e siècle, du 18e siècle. Bien, en fait, toutes ces questions sont déjà présentes avec la radio dans les années 1920-1930. D'abord, il y a un premier problème à résoudre, c'est que le spectre des ondes radiophoniques n'est pas infini. Donc, si vous émettez sur une certaine fréquence, personne d'autre ne peut émettre. Et les premiers à se préoccuper de cet état de fait, ce sont les militaires. Donc, très vite, dès les années 1900, les pays... et les autorités militaires trouvent un arrangement pour qu'il y ait une partie du spectre radiophonique qui soit réservée aux transmissions militaires et que l'on exclut d'entrée de jeu du domaine public. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait du reste? Qu'est-ce que l'on fait de la portion réservée au domaine public? Est-ce que on le fait contrôler par l'État, avec un monopole d'État? Ce sera le choix des Anglais avec la BBC. La BBC, d'entrée de jeu, est un monopole d'État. Et pour éviter d'utiliser la publicité comme moyen de financement, eh bien, ils vont inventer la redevance. Ce sont les Anglais qui, les premiers, vont mettre en place le système de la redevance pour financer la BBC. Aux États-Unis, c'est plutôt une logique libérale, c'est-à-dire la concurrence privée. On autorise telle ou telle fréquence à être utilisée par telle ou telle chaîne privée, donc une autorité est créée pour gérer les émissions. Et puis ensuite, les radios font ce qu'elles veulent. Ce qui fait que l'on a une floraison de radios privées qui, elles, vont essentiellement se financer grâce à la publicité et aux investisseurs privés. Ce qui fait que très vite, aux États-Unis, entre radios publiques soutenues tant bien que mal par les universités pour l'essentiel et quelques associations et les radios privées financées par le biais des investisseurs privés, eh bien, on aura un déséquilibre qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui. Et savez-vous ce qu'ont fait les Américains pour encourager les publicitaires à payer toujours plus. Ils vont se dire, bon, si on ne fait que passer des messages publicitaires les uns après les autres tels quels, ça ne va pas passionner les auditeurs, ils ne vont pas être encouragés à écouter notre chaîne. Donc le mieux, le plus simple, c'est de leur raconter des histoires et de temps en temps interrompre l'histoire en mettant des messages publicitaires. Comme ils voudront savoir la suite de l'histoire, eh bien ils écouteront le message publicitaire. Ils vont inventer un système feuilletonesque qui était déjà utilisé avec la presse imprimée au 19e siècle, hein, mais ils vont le mettre en forme de façon radiophonique et ils vont appeler ça le soap, le savon en anglais, tout simplement parce que l'un des premiers contributeurs publicitaires à ces feuilletons radiophoniques, c'est Procter & Gamble, société chimique qui, entre autres choses, vend des savons, des lessives, etc. Et le soap, ben, les feuilletons américains que vous regardez encore ne sont ni plus ni moins que les descendants directs de ces soaps radiophoniques d'abord, puis qui deviendront télévisuels. Et le but est toujours le même, cibler le public en fonction de ses goûts, de son âge, de son pouvoir d'achat, et construire une fiction qui corresponde à ce public pour l'encourager à écouter les messages publicitaires. Donc quand on se plaint aujourd'hui ou quand le public américain se plaint que ses épisodes préférés soient coupés par la publicité, en fait, c'est la publicité qui se plaint d'être coupée par le feuilleton qu'on présente. Et en France, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben en France, on ne sait pas trop. On hésite. On hésite entre le modèle anglais, monopolistique, et puis le modèle américain, complètement libéral. Et puis finalement, on ne va jamais trancher. Enfin, en tout cas, pas avant la Seconde Guerre mondiale. On va laisser dans cet entre-deux, une partie des ondes sont réservées au domaine public, et ça donnera naissance plus tard à Radio France. Et puis certaines bandes de fréquences sont laissées à des chaînes privées, mais l'autorisation reste flottante, c'est-à-dire qu'à tout moment, le gouvernement se réserve le droit de retirer ces autorisations. Évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, les choses changeront de tout au tout, j'y reviendrai.